France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Question du soir consacrée ce soir à l'Iran. Sites nucléaires, infrastructures militaires, quartiers généraux des gardiens de la Révolution ou encore siège de la radio-télévision d'État. Dans une guerre éclair menée pendant 12 jours contre l'Iran, Israël et les États-Unis ont ciblé des lieux hautement stratégiques, mais aussi les symboles du pouvoir de la République islamique et de ses relais. Et pourtant, même décapités des têtes dirigeantes des gardiens de la Révolution, même fragilisés militairement, force est de constater qu'en interne, le régime semble tenir. Alors sur quoi tient-il ? Sur quel soutien repose-t-il ? Y a-t-il des alternatives politiques crédibles au régime des mollahs ? Voici quelques-unes des questions que nous poserons ce soir à nos trois invités. Shohram Akarami, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue chargée de recherche au CNRS, spécialiste de la violence d'État et de l'Iran, également réalisatrice. Et vous aviez publié en 2023 « Femme, vie, liberté », en référence évidemment à ce slogan d'origine kurde qui a marqué un mouvement notamment de droits des femmes en Iran. C'était 2022-2023. Dans ces années-là, évidemment, on va y revenir. À vos côtés se trouve Didier Hidjadi. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue au CNAM, universitaire. Vous êtes également réfugié politique ici en France et vous enseignez à l'université de Marne-la-Vallée. Merci d'être avec nous. Et enfin, Armin Arefi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, grand reporter au Point. Vous traitez des questions internationales, en particulier les questions relatives au Proche et Moyen-Orient. Dernier ouvrage paru que je peux citer, Un printemps à Téhéran. C'était paru aux éditions Plon en 2019. Et surtout un documentaire disponible en ce moment sur Arte.tv sur les gardiens de la Révolution, les maîtres de l'Iran. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h.
La République islamique a infligé une gifle cinglante à l'Amérique. Elle a attaqué et endommagé la base aérienne d'Al-Udeid, l'une des principales bases américaines dans la région. Je tiens à féliciter la grande nation iranienne. Je voudrais lui adresser quelques félicitations. Tout d'abord, félicitations pour la victoire sur le fallacieux régime sioniste. Malgré tout le bruit et toutes les affirmations, le régime sioniste a été presque écrasé sous les coups de la République islamique. Le régime américain s'est engagé directement dans la guerre, convaincu que son refus d'intervenir conduirait à la destruction complète du régime sioniste. Il est entré en guerre pour tenter de sauver ce régime, mais il n'a rien gagné.
Voilà la voix du guide suprême iranien Khamenei le 26 juin, déclarant la victoire totale de l'Iran. Alors évidemment, c'est un discours politique, peut-être à visée performative, mais dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le régime iranien, quelques jours, un peu plus d'une semaine après le cessez-le-feu, Armin Arefi ?
Écoutez, je pense que déjà le régime iranien a tout fait pour accéder à ce cessez-le-feu. On entend lors de ce discours le guide suprême iranien, le véritable chef d'État du pays, l'ayatollah Khamenei, se féliciter de cette gifle infligée aux États-Unis. Sauf que trois jours auparavant, lorsque l'Iran a effectivement visé la plus grande base américaine au Moyen-Orient, c'est-à-dire la base d'Al-Udeid au Qatar, 11 missiles ont été envoyés, mais avant qu'ils soient envoyés, les Iraniens n'ont pas manqué de prévenir le Qatar, qui accueille sur son territoire cette base, et le Qatar lui-même de prévenir les États-Unis afin qu'il n'y ait pas une seule victime et que la totalité des missiles soit détruite par la défense antiaérienne américaine. Donc c'est là la réalité, c'est-à-dire qu'on a un discours de propagande destiné à ses propres troupes et à sa population de l'ayatollah Khamenei se félicitant d'une victoire, sauf que dans la réalité, c'est une véritable, à mon sens en tout cas, une véritable déroute militaire à laquelle on a assisté, avec un régime qui est toujours en place, mais dont les défenses, la dissuasion a été laminée par Israël au cours de cette guerre de 12 jours, mais également au cours des deux années écoulées, avec l'affaiblissement coup sur coup des groupes paramilitaires alliés à l'Iran dans la région, les fameux proxys, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, Bachar el-Assad, son régime qui a été renversé, ainsi que la destruction de la totalité des défenses antiaériennes iraniennes, si bien que le ciel iranien était aux mains de l'aviation israélienne pendant ces 12 jours. Enfin, le commandement militaire de l'Iran, et notamment de ses gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique a été décapitée avec la quasi-totalité des hauts commandants de cette garde prétorienne du régime qui ont été assassinés. Donc c'est une victoire à la Pyrrhus. C'est en réalité 45 ans de superpuissance et de projection de la République islamique en dehors de ses frontières qui ont été, à mon sens, réduites à néant par l'action commune des États-Unis et d'Israël.
Alors l'information du jour, évidemment, ce sont les otages français Cécile Kohler et Jacques Paris qui ont été inculpés d'espionnage pour le compte d'Israël, pour le Mossad, de complot pour renverser le régime et de corruption sur terre. Chacun de ces trois chefs d'inculpation étant passible de la peine de mort. On voit depuis le cessez-le-feu, les arrestations, les exécutions ont augmenté, comme si, plus que de se replier sur lui-même, le régime affaibli, humilié que vient de décrire Armin Larefi, le pouvoir déployait avec violence un retour de bâton répressif. Shora Makarami.
Oui, c'était prévisible. En fait, c'était vraiment quelque chose auquel s'attendaient beaucoup et que craignaient énormément les Iraniens, les Iraniennes, à la fois dans le pays, bien sûr, et à l'extérieur. Moi, un proche, le lendemain du cessez-le-feu, m'a écrit pour me dire « Nous voilà seuls à présent dans la cage avec le serpent blessé ». Et donc, qu'est-ce que ça ravive, ces techniques de terreur faites pour justement empêcher la société civile d'avoir des velléités de soulèvement à nouveau, puisqu'on sait très bien que tout le désir de changement porté par le soulèvement Femmes, Vie, Liberté n'a pas été désactivé. Il a été étouffé par une répression, mais il n'a pas été désactivé. D'ailleurs, il s'est reconfiguré en conquête de liberté de fait dans la vie quotidienne, notamment des femmes en Iran actuellement, enfin jusqu'à avant la guerre. Et donc dans ce contexte-là où il faut surtout tenir la population, les Iraniens et les Iraniennes ont très peur de revenir à un moment analogue à la signature du cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak après 8 ans de guerre.
À la fin des années 1888.
C'est ça. Et donc en fait, on a une république islamique qui est rentrée en guerre dès le début de son institution et qui, attaqué, agressé par Saddam, a refusé jusqu'à 6 cessez-le-feu tout au cours des années 80 parce que la guerre présentait une opportunité de construire donc à la fois sa puissance militaire répressive, à la fois de se construire idéologiquement à travers la question du martyr, de supprimer les opposants en les requalifiant comme ennemis. Et là, on voit, on est à la même logique à l'œuvre avec l'espionnage au solde d'Israël. Donc on requalifie les adversaires et les opposants comme ennemis, ce qui permet de faire d'exercer un arbitraire. Et simplement, je voulais dire, c'est que en 1988, après la signature du cessez-le-feu, les opposants politiques, il y avait des dizaines de milliers de prisonniers politiques dans le pays, qui étaient là depuis 10 ans, ont été requalifiés comme ennemis, au solde de Saddam Hussein notamment, et ont été massacrés en quelques semaines, au secret. Et donc, il y a eu plusieurs milliers de personnes tuées. Et donc, on craint, en fait, il y a une forme de crainte au-delà de la requalification, au-delà des exécutions. Il y a une vingtaine de prisonniers qui ont été exécutés pour fait d'espionnage au solde d'Israël. Donc, ce que craignent les Iraniens, c'est un retour, en fait, d'un scénario analogue pour asseoir la terreur. Et je finis juste pour ça. C'est que le massacre des prisonniers politiques en 1988 a eu lieu au moment de la question de l'héritage de Khomeini. C'est-à-dire qu'il allait mourir et c'était sa succession. Il a verrouillé, c'est ce que les historiens ont beaucoup dit, il a verrouillé sa succession en trempant les mains de tout le monde dans le sang. Et aujourd'hui, on sait qu'on a la question de la succession de Khamenei également.
Donc le spectre d'un retour d'un massacre, vous parlez de 20 exécutions. Le Monde, ce matin, parlait d'approximativement 700 personnes auraient été arrêtées depuis le début du conflit. Qui sont, sait-on, qui sont les personnes arrêtées aujourd'hui en Iran, Didier Djani?
La nature de ce régime-là, qui est un régime totalitaire, religieux, dès le départ, c'était effectivement lié à la répression sévère donc de la société. À la fois la société politique, mais également la société civile, au sens où il y a des femmes et des hommes veulent vivre avec leur mode de vie comme eux, ils l'entendent. Donc aujourd'hui, on constate depuis à peu près la révolution Femme, Vie, Liberté, il y a eu quelques chiffres qui nous donnaient des indications sur le nombre donc de prisonniers politiques. C'était effectivement 20 000 qui a été annoncé là. Donc, on n'a pas véritablement des chiffres exacts, si vous voulez, là. Mais néanmoins, si on prend en considération les 20 000 plus les 700, voire plus, ces derniers temps, bien évidemment, c'est un nombre très, très important. Alors, qui sont ces gens-là, par rapport à votre question? D'une manière générale, les opposants sont des gens qui critiquent le régime, qui n'aiment pas le régime, qui sont dans le domaine de la littérature, dans le domaine de la politique, qui se sont exprimés contre le régime.
Donc ce sont, au-delà de l'arbitraire de l'arrestation, ce sont des opposants avérés qui se font arrêter aujourd'hui en Iran.
Ce qu'on avait dans les prisons, oui, mais aujourd'hui, avec les 700 qui viennent d'être arrêtés, on n'a pas véritablement une analyse fine par rapport à leur identité, si vous voulez, là. Donc il est possible qu'ils soient à la fois politiques, mais également des citoyens simples qui ont envoyé des messages à droite à gauche, si vous voulez, et que identifiés par le régime, en disant qu'effectivement il s'agit donc des agents donc d'Israël, si vous voulez, là. Donc aujourd'hui, ce qui est absolument important, c'est que la vie des prisonniers, d'une manière générale, a été toujours en danger, et surtout ces derniers temps, puisque un certain nombre de prisonniers qui étaient dans la prison Devin ont été déplacés également.
La prison Devin qui a été bombardée, symbole été de la répression iranienne qui a été
et
bombardée.
Et ensuite, ça a été effectivement transféré vers d'autres. Donc, on évoque les conditions atroces concernant leur vie quotidienne dans les prisons et également les situations sanitaires catastrophiques, effectivement, et que donc forcément les prisonniers sont en situation véritablement très très difficile, si vous voulez, là. Et que donc aujourd'hui, ce qui est absolument important, c'est à la fois au niveau inter que les gens qui sont dans la défense des prisonniers politiques, mais également au niveau international, par exemple la presse, qu'on fasse un travail important pour dénoncer et pour identifier ce qui se passe dans les prisons en République islamique.
Shoram Karimi, vous souhaitez réagir rapidement?
Oui, je voudrais juste compléter le tableau en parlant également d'autres populations comme les réfugiés afghans qui ont été énormément ciblés on pourrait pas dire vraiment de la répression, mais des pratiques de racisme d'État. Il y a eu l'expulsion de...
Qualifiés d'agents d'étrangers régulièrement.
Alors ça, c'est autre chose. Il y en a beaucoup qui ont été exécutés après des aveux forcés, obtenus sous la torture, etc., et qualifiés d'agents de l'étranger. Mais il y a autre chose, c'est que il y a à peu près entre 6 et 7 millions de réfugiés afghans en Iran qui n'ont aucun droit et aucun moyen d'accéder à des formes de résidence permanente. Et en fait, ces réfugiés-là, il y en a plusieurs dizaines de milliers. On parle de 230 000 réfugiés qui sont sous coup d'expulsion et avec interdiction de leur louer des logements, interdiction de les transporter. Et on a également des raids auprès de la population baloutche, toujours sur ce côté suppression et de répression sur les minorités. Donc là, on ne cible pas des opposants politiques, mais on a des formes d'intendance punitive de toute une population.
Vous êtes d'accord avec cette métaphore qu'utilisait à l'instant Shora Makaremi, Armin Arefi, la métaphore de l'animal blessé, le serpent blessé dans la cage? Le régime serait en rupture avec sa population. Il réagirait à cette humiliation militaire par la répression totale, tout azimut, hein, c'est ce que vous êtes en train de décrire.
Oui, tout à fait. Je pense que l'image est très belle et très valable. À savoir qu'en 45 ans d'histoire, à mon sens, jamais la République islamique n'a été autant affaiblie sur la scène internationale, si ce n'est bien sûr au cœur de la guerre Iran-Irak. Mais c'est vrai que l'Iran avait bâti pendant une trentaine d'années justement des défenses bien loin de ses frontières. C'était la stratégie mise en œuvre par les gardiens de la Révolution, notamment sa branche d'élite, la force Al-Quds, pour, je cite, « occuper l'ennemi américain-israélien dans ses pays limitrophes et éviter une attaque de l'Iran ». Maintenant, la rupture que vous évoquez, elle n'est pas nouvelle. Ça fait quand même des années que les Iraniens, la population, manifestent. Aujourd'hui, on parle d'environ de 70 à 80% des Iraniens qui seraient opposés au régime, même si opposer au régime ne veut pas dire être prêt à aller prendre les armes qui n'existent pas ou aller dans la rue manifester et se faire réprimer dans le sang.
À ce propos, d'où il vient ? Parce que ce chiffre de 80%, on le lit régulièrement, on l'entend régulièrement. D'où est-ce qu'il vient ? Comment est-ce qu'on fait pour savoir quel accès on a aujourd'hui à ce type d'informations? Comment est-ce qu'on collecte ce type de données aujourd'hui en Iran?
C'est très compliqué, mais souvent, en tout cas au cours des dernières élections présidentielles, on voit déjà que le taux de participation est de moins en moins élevé et que, en dépit de certaines manipulations du régime, il n'y a pas de possibilité de truquer, on va dire, les scores à la nord-coréenne ou comme dans d'autres pays dictatoriaux, première chose. Deuxième chose, on sent que le régime met le maximum de ses forces et de ses partisans en œuvre pour voter le plus possible pour des candidats ultra-conservateurs qu'ils ont choisis et que le guide a choisi. Et lorsqu'on se fie à ces chiffres, souvent on n'obtient pas plus de 12 à 13 millions, si ce n'est 15 au maximum, de voix que le régime a réussi à mobiliser.
Donc c'est par l'analyse électorale qu'on arrive à se représenter
un indice, donc ouais. 15 millions sur une population d'environ aujourd'hui 90 millions d'habitants, ça peut donner une sorte de, on va dire, une idée de la contestation. Deuxième chose, il y a malgré tout certains organismes basés à l'étranger, je pense notamment à un organisme qui s'appelle Gamman, qui est basé au Danemark, qui effectue justement des sondages, d'ailleurs assez intéressants.
Aux Pays-Bas,
qui effectue des sondages où on a cet ordre d'idées. Et puis, globalement, quand on va en Iran, alors ça c'est encore une chose, c'est moins scientifique, mais quand on peut se rendre en Iran, il est quand même surprenant de voir à quel point où qu'on aille, quelle que soit la ville aux quatre coins du pays. Moi, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était en 2018, où j'ai voyagé aux quatre coins du pays dans le cadre de mes vacances, et de voir à quel point, y compris dans des milieux plus religieux, il y a un rejet du régime, et d'ailleurs pas forcément de la religion, mais du régime et de la dictature qu'il a mise en place au nom de la religion. Moi, je me souviens très bien de ce moment incroyable du retrait unilatéral de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien 2018, qui était du fait des États-Unis alors que l'Iran respectait cet accord. Je me suis rendu en Iran pour d'une certaine manière et en discutant, j'aime beaucoup discuter avec la population, j'étais en train de m'excuser pour le rôle assez néfaste qu'avaient joué les États-Unis et l'Europe en ne parvenant pas à contrer ce retrait unilatéral américain qui avait quand même abouti au retour de plus de 1500 sanctions et qui avait en majorité pénalisé la population. Et j'étais quand même extrêmement surpris de voir que l'extrême grande majorité des gens que je croisais, quel que soit leur milieu social, leur croyance, disaient que c'était la faute du régime. Il y a une telle détestation du régime qui s'exprime en fait par des années de répression et de non-acceptation de la moindre réforme. Et aujourd'hui, c'est ça la principale crainte, c'est que faute d'avoir réussi à contrer l'ennemi entre guillemets israélien ou américain, il y a fort à parier que le régime, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre, se venge sur sa propre population, pas moins de 700 arrestations, 6 exécutions qui ont eu déjà lieu, et pour ajouter quand même aux précisions quant au profil des personnes visées, on a quand même aujourd'hui des personnes qui sont arrêtées pour de simples posts sur Facebook qui critiquaient l'action du gouvernement, en sachant que beaucoup d'Iraniens, s'ils rejetaient les bombardements israéliens, en voulaient avant tout au régime, dont ils ont estimé que c'est la politique régionale qui a mené le pays dans cette impasse et dans cette guerre.
Alors vous parlez d'un rejet total, David Hijadi, vous souhaitez reprendre la parole, mais juste...
Didier.
Didier, excusez-moi, pardon. Je voulais juste vous faire réagir justement sur la source du rejet. Vous disiez le rejet n'est pas forcément lié à la religion, mais à l'utilisation faite par le régime de la religion. Il est lié à l'impossibilité de la réforme.
La situation économique terrible.
Je me permets de vous citer une tribune publiée par l'anthropologue Fariba Abdelka, que vous devez connaître tous les trois, qui écrit que tous les Iraniens, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le combattent ou non, sont tributaires de la République islamique qui les a façonnés et que, paradoxalement, les opposants au pouvoir en place sont aujourd'hui issus des rangs de la République islamique, pointant que ce n'est pas le religieux qui pose problème à la majeure partie de la population iranienne, mais les entraves que la République islamique met encore à la liberté d'accumulation, autrement dit que c'est avant tout les questions économiques et sociales plus que les questions d'ordre religieux ou sur les questions sur les libertés qui portent la contestation interne à la République islamique. Est-ce que vous êtes d'accord avec
non,
ça, Didier Dadi, sans entrer en débat avec Fariba Elka qui n'est pas là, mais sur le plan des idées, peut-être.
Non, sur le plan des idées, effectivement, je ne partage pas ce point de vue-là. Mais si vous voulez, le système en Iran, le système économique, c'est un système basé sur la rente, sur le quasi-monopole, situation quasi-monopole, contrôlée par les gardiens de la révolution et les différentes sociétés qui dépendent effectivement des gardiens de la société et que, disons, au bout, c'est la suprématie donc de Khamenei lui-même, ou ce qu'on appelle Beit-e Khamenei, c'est-à-dire le foyer de Khamenei, qui est un système parallèle, si vous voulez, là. Donc, d'un point de vue économique, c'est la domination totale et sans qu'il y ait un partage, une redistribution effectivement de la richesse.
Donc vous êtes plutôt d'accord avec cette analyse.
Attendez là, s'il vous plaît. Il y a ça, ce phénomène-là, mais également et en Iran, si vous voulez, il y avait l'expérimentation de ce qu'on appelle l'islam politique. L'islam politique est en échec total, car ce qu'on a entendu par l'islam politique, par exemple à Khomeini, quand il était arrivé au pouvoir, et également les idéologues de l'islam, ils disaient, eh bien, avec l'islam, vous aurez un modèle économique, vous avez un modèle, effectivement, dans la société, dans la gestion de la société, etc. C'est ce qu'on appelle l'islam politique en Iran, c'est terminé. Cela ne veut pas dire que le régime n'existe plus, mais comme un modèle avec sa capacité d'attirance, eh bien, ça ne marche plus. Deuxième point. Troisième point, si vous voulez, le régime était au pouvoir grâce à deux moyens. La répression systématique, mais également la question idéologique. Et la question idéologique religieuse, islamique, je veux dire par là. Et donc, l'islam politique est aujourd'hui, effectivement, est en échec. Mais également, ce qu'on a des éléments d'information concernant la société et l'évolution dans la pensée de l'enquête des individus, on constate qu'effectivement, y compris le phénomène religieux est un point qui est rejeté d'une manière ou d'une autre par la société, par une partie de la société iranienne. Bien sûr, le phénomène religieux existe, n'est-ce pas? Mais les gens qui sont devenus, par exemple, athées, qui sont devenus agnostiques, c'est une réalité.
Il y a un phénomène de sécularisation, vous écrivez.
Sécularisation dans la société iranienne. Et cet élément de sécularisation, on l'a vu également avec la révolution Femmes, Vie, Liberté. Il n'y avait aucun slogan, si vous voulez, religieux. Ce qui était demandé par les manifestants, par les femmes, c'était effectivement la liberté, c'était, disons, ils disaient mort au dictateur. Et donc, véritablement, c'était des revendications politiques plutôt laïques, si vous voulez. Et donc, le modèle dans son ensemble, effectivement, est rejeté par, disons, beaucoup d'Iraniens.
Shora Makarimi, une réaction
Sur ça. Alors, en fait, oui, il y a une chose qui est évidente, c'est que, en effet, la subjectivation politique, c'est-à-dire les citoyens, les formes de sujets politiques que sont les Iraniens, ont été façonnés par la République islamique, mais comme en France, on est façonné par la République française, et dans chaque pays, il n'existe pas. Si vous voulez, c'est une évidence sociologique, c'est un béaba.
Mais dans le cas de l'Iran, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une diaspora qui est très active politiquement. Donc il y a un dedans et un dehors, et peut-être que c'est cela aussi qui est intéressant de penser.
Oui, donc on est bien d'accord dès la base qu'il n'existe pas. Et ça, je pense que c'est important. Il n'existe pas de sujet politique modèle qui serait reproductible et qui est le même partout sur la planète. Et c'est important parce que c'est la raison pour laquelle les interventions armées étrangères ne fonctionnent pas.
La politique
pas.
Du régime change, non?
C'est la raison pour laquelle, c'est ce que disait un ami irakien anthropologue un jour en rigolant, en disant les Américains, ils sont arrivés et ils pensaient que en faisant tomber Saddam, ils allaient libérer l'Américain qui est à l'intérieur de chaque Irakien. Irakien qui avait justement grandi sous 40 ans de dictature bassiste. Donc, c'est vrai. Mais moi, ce que je... Justement, mon analyse du soulèvement Femme, Vie, Liberté en tant que soulèvement révolutionnaire, et pourquoi est-ce que je l'appelais révolutionnaire, c'est très exactement de montrer comment est-ce que... j'avais travaillé sur le totalitarisme iranien, qui est à peu près les 10 premières années de fondation de la République islamique. Et avec ce paradoxe que la terreur produit de l'assentiment, produit des formes d'adhésion, et pas uniquement de la peur. Et il y a eu, c'est vrai, ça a été aussi l'expérience réformiste, il y a eu ce moment où les Iraniens, y compris contestés à l'intérieur du cadre de la République islamique, et avec, donc, par exemple, lors du soulèvement vert, c'était « Yor Hossein, Mir Hossein », qui est... On faisait le lien entre Mir Hossein Mousavi, le candidat réformiste, et l'imam Hossein.
Mouvement vert 2009, lors des élections, on va parler
rapidement. Donc, mais très rapidement, pourquoi est-ce que y a une bascule révolutionnaire qui, à mon avis, date de 2017 environ, et qui a été à la fois accomplie, enfin complétée et rendue visible en 2022-23, c'est que y a trois piliers de la République islamique qui se sont effondrés. Ce sont les valeurs, puisqu'on est passé de la prudence, patience, modération, qui était le slogan réformiste, et qui est justement cette subjectivation politique, du coup, intérieure à la République islamique. On est passé de ça en rupture, on est passé à l'obstination et au courage. Et brûler le voile, se couper les cheveux, c'était ça. Pour moi, j'y voyais vraiment un langage de révolte où on a asséné ce basculement. On est passé des affects d'indifférence, qui sont justement produits par l'héritage de politique de la terreur, à des formes d'empathie également. Et on a vu au moment des frappes israéliennes sur l'Iran, alors qu'il y avait une absence quasi totale en fait de prise en charge gouvernementale, on va dire, des évacuations de la population, etc. Les formes de solidarité qui régnaient parmi les gens qui, par exemple, dans les magasins, n'achetaient pas tout pour en laisser les uns aux autres et donc s'occuper des animaux les uns des autres pour ceux qui partaient. Donc en fait, il y avait des formes. Donc on voit bien qu'on c'est une contre-affect pour résister. Et au niveau de l'identité collective, on avait une identité collective qui était forgée par deux figures, le martyr et l'ennemi. Et ça a été vraiment effectif pendant des années. C'est pour ça que je ne dis pas que ça a toujours été comme ça. Mais on a basculé dans autre chose. Et aujourd'hui, et l'ennemi et le martyr ne sont plus opératoires comme, figures qui permettent de construire une identité. Donc en fait, on a un réel divorce entre l'iranité et la République islamique. Et donc c'est pour ça, moi, je pense tout à fait le contraire. Et il faut voir quelles sont les possibilités, quelles formes de résistance. Est-ce que ces sujets politiques iraniens, qui sont en effet formés par la République islamique parce qu'ils ont grandi à l'intérieur de cette République islamique, mais qui sont aussi qui se subjectivent par la subversion, par l'opposition. Qu'est-ce que ces sujets politiques vont inventer comme forme de résistance, parce que les Iraniens ont toujours été très inventifs.
France Culture, question du soir. Matteo Caranta.
D'abord, beaucoup de mes compatriotes réclament à ce que j'intervienne. Je pense qu'aujourd'hui, mon rôle est important dans le sens où je peux, si vous voulez, fédérer l'unité des oppositions démocratiques, préparer le terrain pour une transition démocratique, sachant que la fonction d'un gouvernement de transition, c'est tout d'abord de maintenir la gouvernance temporaire du pays, mais préparer le terrain pour qu'il y ait une assemblée constituante qui, elle, va trancher sur le sujet quelle est l'alternative ultime proposée au peuple, et à travers un référendum national, le choix final sera par le peuple.
Moi, d'habitude, je m'en fiche de la politique. J'y connais rien. Mais là, c'est différent. J'ai eu envie de faire les manifs, parce que je me sentais directement concernée. Il y avait plein d'étudiants, plein de gens comme moi, qui gueulaient.
Nous, en tant que jeunes, on manque d'oxygène et on est tout dans cette ville. Parce qu'ici, on est chez les Mollahs, on est chez les Chers, la ville leur appartient.
Arrête, on va se retrouver en tôle.
À cause des mollahs, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Les cafés sont séparés, rien n'est mixte. On ne peut même pas sortir en couple. Et les filles, c'est encore pire pour elles.
Voilà, vous êtes bien sur France Culture, 18h43. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission consacrée, vous l'aurez compris, aux oppositions iraniennes à la République islamique, en compagnie de Shora Makaremi, anthropologue, Didier Hidjadi, sociologue, Armin Arefi, journaliste, grand reporter au Point. Et nous venons d'entendre dans l'ordre la voix d'abord de Reza Pahlavi, fils du Shah, interviewé le 23 juin dernier sur BFM TV. Et puis des voix, des sons, des ambiances du mouvement Femmes Liberté, de voix jeunes également, des voix tronquées pour la sécurité des personnes qui s'exprimaient et qui exprimaient leur opposition au régime. Armin Arefi, qui sont les oppositions constituées aujourd'hui au régime iranien ?
C'est une très bonne question. Le problème étant que 45 ans de République islamique ont empêché la constitution, à mon sens, d'oppositions organisées à l'intérieur de l'Iran. On a parler beaucoup, et à juste titre, du mouvement réformateur qui se trouve au sein de la République islamique, mais qui veut sauver la République islamique par l'ouverture au monde, mais également l'ouverture sociale et sociétale. Le problème étant que ce mouvement réformateur s'est heurté à la crise de 2009, où des millions d'Iraniens se trouvaient dans la rue, après l'élection qu'ils estimaient confisquée, volée, à la faveur de Mahmoud Ahmadinejad, et qu'il avait à l'époque deux leaders bien identifiés, Mir Hossein Mousavi et Mehdi Karoubi, les deux candidats vaincus de la présidentielle, après des centaines de morts, et l'arrestation, ou plutôt l'assignation à résidence depuis lors, hein, depuis 2011, c'est-à-dire depuis 14 ans que ces deux opposants sont à la maison, la République islamique, et notamment le guide suprême, a réussi à mettre de côté tout espoir de réforme, à empêcher tout espoir de réforme au sein de la République islamique, mais surtout à mettre de côté cette éventualité au sein de la population iranienne. Ça marque la véritable rupture, et notamment une rupture marquée depuis 2018. Je pense que c'est une date extrêmement importante parce que c'est le retrait unilatéral de l'accord sur le nucléaire iranien, c'est la réimposition de sanctions, et c'est la date de la fuite en avant de la République islamique. Et ce qui est très intéressant,
oui, allez-y,
c'est que arrivent à ce moment-là les premières manifestations 2017-2018 contre la vie chère qui enflamme l'Iran. Et à ce moment-là, on ne parle plus de réforme, on parle de renversement du régime. Et donc, d'une certaine manière, le guide suprême...
D'ailleurs, je voulais juste pour vous dire, je me permets de vous interrompre, mais le premier réflexe là, politique du régime, entre guillemets, ça a été de dire on va faire des réformes. Hein,
Massoud, sauf que c'est trop tard.
Le président,
c'est
bien sûr, tard. A dit on va faire des ouvertures. Le Premier ministre Mohammad Reza Aref a également dit voilà, il faut qu'on repense,
oui,
il faut qu'on se mette en question. Donc on voit que le régime espère encore que la réforme
régime, au lendemain de cette guerre,
sa voie de survie.
Au lendemain de cette guerre, le régime part à nouveau d'iranité, d'Iran, de civilisation. Mais c'est trop tard. J'ai l'impression que là-dessus, le régime a créé sa propre tombe en empêchant la moindre ouverture au sein même de ce régime. Alors qu'en 2009, la population, en tout cas dans une grande partie, pour une partie en tout cas d'entre elles qui se trouvait dans la rue, ne souhaitait pas le renversement du régime. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait une révolution, elle a eu pire. La guerre, elle l'a connue contre l'Irak. Elle voulait un changement, une réforme dans la paix, dans la sécurité. Or, ce qui est très intéressant, c'est que la réimposition de sanctions et la politique de pression maximale imposée par Donald Trump a servi, en tout cas, non, je dirais qu'elle a poussé non pas la population iranienne à en vouloir aux États-Unis et à Israël, mais encore davantage au régime. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a eu des manifestations, des occasions pour les Iraniens de s'exprimer, ils ont été réprimés dans le sang, d'où l'impasse qu'on connaît aujourd'hui, où, il faut le rappeler, aucune manifestation n'a été observée dans les rues à la faveur de cette guerre de 12 jours, à la différence de ce qu'appelait Benjamin Netanyahou de ses vœux.
Bien sûr. Et d'ailleurs, vous parlez de ça, effectivement, je rappelle qu'Israël a fait une véritable communication en hackant directement la télévision d'État, en passant des films de propagande pour rappeler la population descendre dans la rue, et cela n'a pas eu lieu. On a entendu la voix de Reza Pahlavi. Je me tourne vers vous, Didier Hidjadi. Qui est nostalgique de la monarchie aujourd'hui ? Est-ce que Reza Pahlavi est connu, reconnu par l'opinion publique iranienne ? Est-ce qu'il a une valeur politique aujourd'hui en Iran ?
Écoutez, l'opposition iranienne est très diversifiée, très différente. Comme ça a été signalé, en Iran, à cause du despotisme, eh bien, on n'a pas d'organisation ou des partis politiques organisés, si vous voulez, là. Mais néanmoins, il existe des leaders, il existe des individualités, à la fois en prison, mais également dans la société iranienne, qui ont véritablement une grande capacité pour jouer leur rôle comme un acteur important, donc un leader, effectivement, politique. À l'étranger, dans mon analyse, j'ai repéré à peu près une cinquantaine de groupes et partis politiques éparpillés dans les différents pays-là. Ces organisations sont dans 7 lignes différentes, si vous voulez, là. On n'a pas le temps pour détailler ces éléments-là. Et parmi tous ces choix politique, il y a également Reza Pahlavi.
Donc, Reza on peut quand même en citer les principaux de ces choix politiques.
Oui, par exemple, les courants qui est le courant des républicains, le courant des monarchistes, les courants
les Moudjahidines du peuple également.
Les Moudjahidines du peuple, et les organisations ethniques, et tous ces courants-là. Mais néanmoins, il n'y a aucun effort pour pouvoir, non pas la totalité, car ils sont également dans des approches très différentes, là. Mais aucun effort sérieux pour qu'il y ait effectivement une convergence d'idées ou voire d'actions, si vous voulez, par rapport à la situation iranienne, là. Malheureusement, parce qu'ils sont effectivement touchés par d'autres phénomènes que
Reza Pahlavi, pour vous, peut pas constituer du coup une alternative politique
non.
Crédible.
Reza Pahlavi a fait à plusieurs reprises, si vous voulez, a essayé de rassembler un certain nombre de leaders, disons de groupes politiques, mais sur le plan organisationnel, il n'a pas été capable, si vous voulez, de proposer une alternative solide, structurée, etc. Mais néanmoins, lui-même, il est dans un discours modéré, si vous voulez, et parmi les chefs de l'opposition iranienne, et que lui, il se propose pour qu'il y ait cette phase de transition, et il dit, moi, je suis pas pour le retour de la monarchie, eh bien, il dit que c'est le peuple qui en décide, si vous voulez, là. Et donc, néanmoins, ceux qui sont en Iran, si vous voulez, on n'a pas malheureusement encore des enquêtes, des précisions, etc. Mais ce qu'on entend, à la fois par le témoignage, etc., le nom de son grand-père, Reza Shah, a été appelé dans certaines manifestations, et voire également son père, et aussi lui, aussi a été évoqué, là. Mais néanmoins, à partir de nos contacts avec les familles, etc., parfois on entend qu'il y ait également des gens qui ont des sympathies vis-à-vis pour Reza Pahlavi, et à l'étranger également, une partie donc des Iraniens dans tel ou tel pays, également, ils se manifestent favorables par rapport à Reza Pahlavi. Donc, dans la situation actuelle, les républicains sont complètement divisés, ce qu'on appelle effectivement les autres courants, ils sont très très divisés, et bien Reza Pahlavi, à partir de son approche de communication avec les médias, avec les milieux politiques européens, etc., cherche à dire que le seul, disons, la seule alternative, c'est lui. Mais néanmoins, on est à la fois dans la présence de quelques éléments qui sont réels, mais également dans un discours de publicité aussi.
Shohram Akaremi, vous y croyez, vous, à que l'alternative puisse être le retour d'un quelqu'un qui représente peut-être une forme nostalgique d'un Iran pré-révolutionnaire, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait regarder du côté du mouvement récent, de Femmes, Vie, Liberté, d'une société civile qui parle d'une autre forme d'iranité?
Oui, en fait, la question... la question de l'alternative politique est en effet très compliquée, d'autant plus que y a deux choses pour moi à prendre en compte. Ce sont les pratiques de soupçon dans l'espace numérique, parce que comme vous avez dit, il y a l'intérieur du pays et l'extérieur. Et pendant très longtemps, la République islamique a gouverné en créant des séparations entre l'intérieur et l'extérieur autour à partir de cette notion, de ce processus politique, en fait, qui permet de nouer le rapport entre société et État, et qui s'appelle les lignes rouges. Les lignes rouges, c'est un mot que les Iraniens eux-mêmes utilisent pour dire quelles sont les limites, les frontières à ne pas franchir si on ne veut pas avoir d'ennuis vraiment très très grands. Par exemple, remettre en cause la République islamique, le Velayat-e Fari, le gouvernement du guide suprême. Et de ce fait, ceux qui franchissent ces lignes rouges, comme moi par exemple quand j'ai publié les mémoires de mon grand-père sur le massacre de 88, eh bien ne peuvent plus aller et venir. Ce qui fait que ces lignes, au sens figuré, deviennent les frontières réelles du pays. Les Iraniens qui ont vécu la guerre Iran-Iran, Iran-Irak avait l'habitude, en fait, de, encore une fois, pour des raisons de subjectivation politique, de penser qu'il y avait une très grande différence, et je pense que c'est tout à fait réel, entre les Iraniens de l'intérieur et ceux de l'extérieur. C'est-à-dire que quand on n'a pas fait l'expérience de la vie quotidienne sous la République islamique, on est un peu moins iranien ou autrement iranien. Ce qui s'est passé d'extrêmement important lors du soulèvement Femmes Vie Liberté, ce que ça a mis au jour, c'est que jusque-là, en fait, l'iranité, et ça c'était le grand exploit de la République islamique que moi j'ai mis plusieurs années à étudier, c'est que l'iranité et la République islamique coïncidaient à peu près,
se superposaient
grâce à ce processus des lignes rouges. Et ça a volé en éclats dans le temps, et aujourd'hui, on a une société iranienne transnationale. Cependant, il y a des pratiques de soupçon et il y a des formes de justement d'apprentissage du fonctionnement politique sous la dictature qui font que il est très difficile de se faire confiance, que les paroles peuvent être très violentes, etc. Et pour moi, ces pratiques de soupçon-là sont extrêmement politiques, hein, et c'est l'héritage de la dictature. Maintenant, pour aller rapidement, la monarchie, le problème de l'alternative Reza Pahlavi, l'institut de sondage Gamane qui met des sondages en fait sur les VPN et donc qui fait des sondages comme ça numériques où on a à répondre
VPN,
à un sondage.
VPN qui sont des moyens informatiques de se connecter depuis l'intérieur en faisant croire qu'on est à l'extérieur.
Si on veut avoir accès à l'internet, il faut répondre à ces sondages depuis l'intérieur. Et donc le sondage que lui donne, c'est à peu près 30% pour la monarchie et à peu près 30% pour un projet social-démocrate. C'est intéressant parce que c'est pas la l'accumulation des richesses, c'est la redistribution des richesses. Mais en tout cas, le problème des monarchiques, c'est qu'ils sont idéologiques et pas pragmatiques. Et ça, je pense que c'est un point très important. C'est qu'à la fois, Reza Shah a un discours, Reza Pahlavi a un discours pragmatique, et à la fois, ils ont un comportement extrêmement idéologique qui ne permet pas, justement, cette collaboration.
Alors, je pose cette question à vous, Shora Makarimi, mais je la poserai à vous tous, et ce sera la dernière, malheureusement, de cette émission qui a filé extrêmement vite. On a parlé des nombreux mouvements sociaux qui se sont accélérés ces dernières années. 2009, on a parlé du mouvement vert 2019, les manifestations très larges et spontanées après l'augmentation du prix de l'essence, Femmes, Vie, Liberté 2022-2023. Pourtant, la guerre de 12 jours qui vient d'avoir lieu, ces mouvements sont restés au stade de révolution embryonnaire ou en tout cas de mouvement politique sans jamais faire tomber le régime. Alors plutôt, à quoi ça tient? Qu'a-t-il manqué à chaque fois pour que le régime ne tombe? Qu'a-t-il manqué aujourd'hui encore pour que le régime ne tombe? Armin Arefi, et puis Didier Djadi.
Aujourd'hui encore, déjà, il a manqué des gens dans la rue, première chose. Donc il n'y en avait pas. Donc là, l'affaire est vite conclue. Les gens étaient davantage occupés à échapper aux bombes israéliennes, si tant est qu'on puisse imaginer qu'on peut libérer un pays avec des bombes. Maintenant, je pense que, pour revenir, alors je vais essayer de répondre à votre question tout en répondant à la
précédente. 2 minutes d'émission.
Ouh là là, d'accord. Il y a des oppositions constituées à l'étranger, les Moudjahidines du peuple, effectivement, même si c'est un groupe extrêmement controversé, qui a beaucoup perdu de popularité en Iran, notamment depuis son passage chez l'ennemi irakien au milieu des années 80. Reza Pahlavi, il a des soutiens en Iran, certaines nostalgies auprès de la jeunesse, mais il en a encore davantage au niveau de la diaspora. Le problème étant que c'est quand même, il faut le rappeler, le seul, à mon sens, le seul membre de l'opposition à avoir soutenu les bombardements israéliens, ce qui lui a beaucoup apporté jusqu'au lundi, veille du cessez-le-feu, et ce qui lui a beaucoup coûté au lendemain, quand il y a eu ce cessez-le-feu. Pour répondre à votre question, clairement et rapidement, oui, aujourd'hui, il manque à mon sens... qu'est-ce qui peut changer, constituer un changement en Iran? C'est un groupe d'opposition armée. Y a-t-il des groupes d'opposition armée en Iran? Il y a les Kurdes, malheureusement, ils ne vont pas renverser.
Pour vous, c'est un mouvement d'opposition.
Et donc, ce serait les gardiens de la révolution, où il pourrait y avoir, éventuellement, vu qu'il est infiltré jusqu'à l'os par le Mossad,
s'il vous plaît, s'il vous plaît, Armin Arefi. Didier, il a dit, malheureusement, il ne nous reste plus qu'un seul mot.
Je dois parler de mon idéal ou bien de la situation
De votre idéal, s'il vous plaît.
Mon idéal, c'est qu'effectivement, qu'il y ait une convergence entre les républicains et les monarchistes, les démocratiques et également d'autres qui sont pour la démocratie, la liberté, mais également l'intégrité, disons, de l'Iran, ainsi que pour une gouvernance laïque.
Shora Makarimi, qu'a-t-il manqué ?
Il a manqué la question du martyr, c'est-à-dire que les Iraniens ne veulent plus se faire tuer. Et donc, comment lutter de façon asymétrique pour renverser un pouvoir qui est armé jusqu'à l'os? Eh bien, on l'a pas encore trouvé, mais on est en train de le trouver. Et quand on
bien, on espère qu'on trouvera la révolution. Et je vous réinviterai le jour où vous aurez trouvé cette recette. Merci à vous trois, Chora Makarimi. Je rappelle, vous êtes anthropologue chargé de recherche au CNRS, Didier Hidjadi, sociologue au CNAM, Armin Arefi, journaliste, grand reporter au Point, à voir votre série documentaire sur Arte.tv sur les gardiens de la révolution. L'émission de ce soir a été préparée par Théa Corlaire. Tout le reste de l'équipe, je la remercie. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails. C'était Élise Le La Technique. Merci beaucoup, à demain.